Bon, c'est CNN d'abord qui a sorti, cette nouvelle-là, là, un milliardaire qui s'appelle Mark Lore, L-O-R-E, donc qui veut créer une toute nouvelle ville dans le désert, quelque part, on ne sait pas trop dans quel état, ça va-tu être le Nevada, ça va-tu être l'Arizona, ça va-tu être le Texas. On va aller rejoindre Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour Luc.
Bonjour Bernard.
Qu'est-ce que tu en penses de cette affaire-là, toi?
Moi, ça me fait beaucoup penser à Epcot.
À quoi?
Avec Walt Disney. On est quelque part en fin de carrière, on a fait une tonne de fric, ça va bien. Et puis là, on se met à jouer à Dieu. Hein? C'est le syndrome de Dieu qu'on appelle ça. Là.
Oui.
On va imaginer quelque chose de complètement flyé. Alors, dans le cas de Epcot, ça ne devait pas être ce que c'est aujourd'hui. Là, pour ceux qui auraient suivi le dossier depuis le début, c'était une ville du futur. Alors, et il ne parlait pas de ville, Disney, soit dit en passant. Il parlait de communauté. Il parlait de transport en commun. Tout le transport comme tel, le déplacement des individus se faisait en dessous de la terre. Alors, tu vois-tu, on n'est pas très, très loin de ce que M. Lore rêve.
Oui.
Qui, lui, dans une autre vie, et tu en parlais avec Walmart, le Jet.com, qui est une grande partie là, de l'architecture Internet qui sert aujourd'hui au site de Walmart, c'est lui. Alors, c'est Walmart qui a acheté ça et qui l'a mis, sans surprise, à la tête de ce département-là de vente en ligne avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Et précédemment, il était dans le domaine des couches. C'est lui qui avait lancé diapers.com. Là. T'achètes de la couche en gros, là.
Ah oui?
Okay. On peut pas dire que c'est quelque chose de très écologique, quoique pour avoir eu 3 enfants, je confirme qu'il faut des couches, là.
Oui.
Mais il a vendu ça à Amazon. Alors, tu vois que c'est 2 gros coups de circuit en ligne. Et là, il arrive avec ça, ce qu'il appelle, lui, la ville équitable.
Oui, c'est ça. Alors, décris-nous là, c'est une espèce de rêve. C'est comme une ville parfaite, là, à ses yeux, en tout cas.
Oui, oui, effectivement. Alors, c'est Dieu, comme j'en parlais il y a 2 instants. Il ne se trompera pas. Alors, le toit des édifices, c'est de l'énergie solaire, des espaces verts, énergie durable. On se promène en vélo. La voiture est autonome. Il n'y a pas de voiture à essence. Il n'y a pas d'essence non plus dans cette ville-là. Au tout début, on n'est pas trop nombreux. On parle d'à peu près 50 000 habitants. Sur 1500 acres, puis éventuellement, et ça devrait coûter 25 milliards de dollars. Et là, je m'en viens avec, évidemment, le dossier chaud, c'est que dans un deuxième temps, il imagine une ville beaucoup plus importante, 5 millions d'habitants, et là, il a besoin, pour construire cette ville-là, tiens-toi bien, de 400 milliards de dollars.
Alors, est-ce que c'est un coup de pub? Et si oui, à quelle fin? C'est quoi qu'il y a derrière la tête, d'après toi? Est-ce que...
Ben là, il y a 2 choses intéressantes. Les gens qui ont regardé la vidéo, parce qu'il y a déjà des vidéos qui traînent sur Internet, ont remarqué qu'il y a une voiture qui se déplace dans ces vidéos et il a investi dans cette entreprise-là de voitures précisément. L'autre chose, c'est qu'aux États-Unis, maintenant, en fonction des États, il y a beaucoup de subventions qui sont disponibles. Et quand on demande comment tu vas trouver 400 milliards, ce qu'il dit, je vais trouver des subventions institutionnelles, des subventions privées, mais surtout des subventions d'État.
Hey boy, ouais.
Je pense à l'entreprise Tesla, ce serait un bel exemple, et je ne nie pas qu'il s'agit d'un très, très beau succès, là. Mais il faut savoir qu'une partie substantielle de la vente de ces voitures-là est subventionnée et que ce coup de pouce-là est nécessaire actuellement à l'ensemble de l'industrie. Et ça explique pourquoi Ford et GM se lancent actuellement là-dedans avec toute l'énergie qu'on peut imaginer. Mais lui, il dit, j'ai besoin de subventions, j'ai besoin d'un coup de main aussi de mécènes qui vont accepter de donner des milliards de dollars au moment de leur décès.
Mais quel serait l'intérêt, mettons, à un mécène de participer à un projet comme celui-là? C'est quoi? C'est la vision d'une ville qui est écolo, qui est autosuffisante en eau? Parce que moi, tout de suite, j'ai pensé à la problématique de l'eau. On sait qu'il y a il y a des coins aux États-Unis où ils vivent de gros, gros problèmes d'eau. La nappe phréatique est fortement à la baisse. Il y a des lacs, des rivières dont les niveaux d'eau ont beaucoup baissé. On a vu les feux de forêt en Californie, tout ça. Je me suis dit, une ville en plein milieu du désert, c'est la dernière chose dont les Américains ont besoin. Fait que j'essaye de comprendre. Tu comprends?
Oui, puis dans le cas du Nevada, ce qui serait cet exemple-là, on parle beaucoup du Nevada au moment où on se parle. Ce problème-là existe déjà. Et si c'était simplement l'un des problèmes, mais non seulement sur le plan architectural, là, sur le plan de l'espace, mais sur le plan aussi idéologique. Je te parlais il y a 2 instants de ville équitable. Et lui, il a lancé un concept que je trouve flyé, l'équitisme. Mettons, on va l'appeler comme ça là, en français. Alors, lui, il dit, il faut aussi que sur le plan de la médecine, des services de santé, de l'éducation, le logement abordable, les services sociaux, vois-tu, toutes les problématiques que l'on connaît très, très bien,
Il serait comme résolu dans cette ville parfaite.
Oui, alors voilà où là, ça devient formidable, c'est que c'est ça, on va régler tous ces problèmes-là. Quand on sait que d'en régler un, c'est pas facile, je pense que ces temps-ci, c'est très d'actualité, mais là, on va tout régler ça. Et c'est une ville aussi, il n'y a plus de pauvreté.
Une ville inclusive où il y a beaucoup de diversité aussi?
C'est ce qu'il dit, absolument. Puis je te rappelle qu'il utilise le vocable d'équitable. Donc, c'est la ville équitable. C'est la première sur ce plan-là. Et moi, ça me rappelle, j'y reviens, beaucoup ce que racontait Walt Disney avant de mourir. Et pour la petite histoire, lorsque Disney décède, lors du premier conseil d'administration après son décès, tout le monde vote unanimement. On prend Epcot Center, ce qu'il avait conçu à l'époque, qu'il avait imaginé, et on a jeté ça. Je le dis parce que si vous avez visité Epcot, qui ne s'appelle plus d'ailleurs Epcot Center, mais Epcot tout court, ben ça ressemble étrangement. Moi, quand je suis allé voir ça, un, ça a très mal vieilli, c'est très défraîchi. Mais deux, ça me rappelait beaucoup l'Expo 67. Et c'est ça que c'est devenu après. On s'est dit, on va approcher un certain nombre de pays, on va construire des maisons ou des pans de section qui vont ressembler tantôt à l'Allemagne, j'ai souvenir, le Japon, le Canada aussi, parce que le Canada avait son...
Alors, ce gars-là a une idée derrière la tête, puis on risque de découvrir exactement c'est quoi un peu plus tard. Est-ce qu'il aurait des ambitions politiques? Parce que là, avec ce projet-là, il peut se positionner comme pro-écolo, pro-diversité, anti-pauvreté, je veux dire, il coche
tous
les
mots magiques.
Ben
et
oui.
Je rappelle, et c'est son slogan, c'est la ville à 15 minutes. Donc, il n'y a jamais personne qui va se déplacer plus de 15 minutes pour aller, par exemple, au travail, faire l'épicerie, aller à l'école ou revenir à la maison.
Ouais, on verra bien. Luc Dupont, merci.
C'est un plaisir.
Merci tout le monde d'être là. On se retrouve demain. Patrick Lagacé prend le relais. Ciao.